Europe 1, 8h12, lors de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Weekend. Et ce matin, nous allons plonger au cœur de l'enfer des normes dénoncées par les agriculteurs. Lénaïque Monnier, vous recevez celui qui est avocat au barreau de Paris et défenseur du monde agricole, Maître Timothée Dufour.
Oui, qui a fait de sa spécialité les combats entre les néo-ruraux et les agriculteurs, parce que c'est révélateur, bien sûr, des difficultés qu'on rencontre sur le terrain au quotidien. Bonjour Timothée Dufour.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Eh bien, merci de l'avoir accepté, de vous être levé tôt pour vous déplacer dans les studios d'Europe 1 ce matin. Première chose, à quel moment de votre carrière, de votre jeune carrière, vous êtes intéressé au monde agricole ?
J'ai envie de vous dire, je sais d'où je viens. Je viens d'une famille d'éleveurs qui continue de travailler cette terre de France dans le sud-ouest, en Dordogne. Et donc, quand je prends la défense des agriculteurs, finalement, c'est ce fil rouge qui se maintient. Mais c'est aussi peut-être une façon de, j'allais dire, leur témoigner ma reconnaissance. Et donc, lorsqu'un éleveur, il y a maintenant plus de 5 ans, m'appelle et me dit « j'ai besoin d'un avocat », parce qu'il avait face à lui des voisins, notamment une patronne d'une maison d'édition, conseillée par une ancienne ministre de l'Environnement, et que le tout s'oppose à l'installation de son élevage, je me dis « j'y vais ».
Il faut faire quelque chose.
J'y vais parce que, comme je dis si souvent, ils en ont besoin, on le leur doit, et surtout nous nourrir. C'est leur métier, et le défendre, c'est mon devoir.
Et ça, c'est votre métier, votre devoir, Timothée Dufour. Alors, vous êtes parti, non pas en guerre, mais au moins en justice contre ces fameux néo-ruraux qui trouvent que les coqs chantent trop tôt, que les bêtes sentent trop le fumier, enfin, le purin. C'est assez lunaire quand on entend parfois le discours. Hein.
Ça l'est d'autant plus que finalement, ça s'apparente à une forme d'agribashing. Mm-hmm. C'est-à-dire que, je vais vous donner 3 exemples très concrets, hein, c'est ce qui rythme en fait la vie malheureusement de certains de nos agriculteurs, c'est quand vous recevez un jour sur votre cuisine, dans votre ferme, une lettre d'intimidation dans laquelle il est écrit, hein, je vous cite, hein, nous sommes farouchement opposés à l'installation de vos vaches, parce que finalement ça représente le retour à une ruralité lourde. Mmh. L'agribashing, c'est quand vous recevez aussi des mémoires qui font 30 à 60 pages et dans lesquelles on va mener des combats pendant 10 ans pour s'opposer à votre projet agricole. C'est lorsque vous recevez, encore récemment, un agriculteur m'appelle hier matin dans le Finistère parce que vous avez un collectif qui s'est constitué et qui s'oppose, je cite, au passage de ses vaches devant sa maison. Mmh. Et je m'adresse d'ailleurs à ce monsieur P qui mène une fronde contre cet agriculteur et j'ai envie de lui dire que je vais défendre cet agriculteur avec toute mon énergie. Je vais le faire parce qu'une fois de plus, on parle de souveraineté alimentaire depuis 3 jours. On va le mettre dans la loi. Mais la défense de cette souveraineté, elle commence sur le terrain avec des bottes. Si on n'est pas capable de défendre nos corps de ferme, nos bâtiments, nos éleveurs, cette souveraineté alimentaire dont nous allons peut-être parler, ça restera un concept théorique.
Et avant de parler justement de cette souveraineté alimentaire, cet agri-bashing là que vous décrivez, est-ce qu'il y a un moment de bascule ?
Oui, il y a eu un moment de bascule à mon sens, et là je me tourne vers les sociologues, je pense notamment à Eddy Fougier, qui avait parfaitement analysé ce mouvement, qui l'avait canalisé entre les années 2015 et 2016. C'est un moment où nous avons vu monter ce que j'appellerais même l'écologie radicale, avec des associations environnementales qui se constituaient. Et aujourd'hui, en effet, quand vous regardez les contentieux en France, qui opposent les agriculteurs à des tiers, c'est souvent des associations qui mènent la fronde, et c'est souvent des associations qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps, parce qu'elles considèrent que tel projet n'est pas compatible avec leur philosophie personnelle. Ça, c'est une réalité, et dans les annonces gouvernementales, je note que quand même qu'il y a une volonté justement d'accélérer les procédures, de réduire les délais. Donc on a eu des annonces...
Le fameux choc de simplification qui était demandé, hein.
Exactement, et qui est une réponse à mon avis qui va toucher tous nos projets agricoles, parce que l'attente forte aujourd'hui chez eux, c'est justement d'avoir une justice qui écoute, parce qu'on l'a vu avec Soulèvement de la Terre, on a vu quand même le blanc-seing qu'on avait donné à ce mouvement, ni la justice, ni les autorités n'ont réussi à mettre fin à cette guérilla urbaine à laquelle nous avons assisté il y a plus d'un an.
À Sainte-Soline.
Donc, à Sainte-Soline notamment, et donc ce choc de simplification qui se traduira par une justice rapide, c'est une réponse qui était naturellement attendue.
Et c'est vrai, Timothée Dufour, qu'en plus les agriculteurs français sont les remontées qu'on a eues, et on leur a beaucoup donné la parole sur Europe 1, c'est qu'ils sont extrêmement contrôlés, il y a souvent des personnes qui viennent voir si la hauteur du tas de fumier est réglementaire, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites. Hein.
Alors, on pourrait même parler de contrôle intempestif. J'ai l'habitude de dire qu'on a des contrôles aériens, vous savez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des images satellites, on va venir fliquer nos agriculteurs, on a des contrôles terrestres, c'est-à-dire qu'on va avoir des contrôles inopinés à tout moment dans les fermes. Je pense notamment à cet agriculteur qui m'a appelé encore récemment dans l'Aisne. Vous savez, il a fait quoi? Il a fait tomber 10 kilos de semences enrobées sur son chemin. 10 kilos, c'est pas grand-chose. Et pour autant, pour cette erreur, cette maladresse, il va avoir plus de 18 mois de procédure jusqu'à comparaître devant le parquet. Est-ce que ça le justifiait? Je ne crois pas.
Alors, est-ce que la souveraineté alimentaire dont on va parler ensemble à présent, Timothée Dufour, elle se décide à Paris ou est-ce qu'elle se décide à Bruxelles?
Alors, c'est déjà bien de reconnaître qu'il y a une souveraineté à protéger, à préserver. J'ai envie de vous dire, il y a deux niveaux. Il y a le niveau interne, et là, on a eu des annonces gouvernementales. Je n'ai pas forcément... y répondre de manière précise, parce que ce serait faire de la politique, et mon parti à moi, c'est l'agriculture et ce sont les agriculteurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la réponse, naturellement, elle sera portée par Bruxelles, parce que, quand vous voyez, je vais vous donner deux exemples concrets, la filière des endives dans les Hauts-de-France, quand vous avez les instances européennes qui prennent une décision il y a 2 ans d'interdire un produit, le désherbant, et qu'aujourd'hui c'est 350 entreprises et 5000 emplois qui sont menacés du fait de cette décision européenne, la solution, ce n'est pas Matignon ou le ministère de l'Agriculture qui va la régler. C'est nos instances européennes. Quand vous prenez le sujet de la prédation, je terminerai par là. La prédation, vous savez, c'est le choix qui a été fait par l'Europe de protéger des espèces. Le loup, le lynx, le cormoran. On ne peut pas aujourd'hui modifier ces quotas parce qu'une décision a été prise dans une convention dite de Berne au niveau européen. Donc, sauf à réviser ce cadre européen, nos filières, la filière des endivies en l'occurrence, la filière du pastoralisme, la filière de la pisciculture, ne pourront pas voir leur situation transformée. Donc il faut naturellement un choc de simplification, il faut des aides, des subventions qui vont être annoncées, mais il faut avant tout modifier les règles décisionnelles au niveau de nos instances européennes et qu'on ait plus que jamais un rééquilibrage entre agriculture et normes écologiques. On a fait le choix d'être bon élève au niveau de la France, de devancer, d'être fer de lance. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus possible parce qu'il y a des intérêts à balancer et demain, on se doit de mettre sur un même pied d'égalité l'environnement et l'agriculteur. L'agriculture, ce sont deux thèmes, deux secteurs qui sont en réalité complémentaires et qu'on se doit de protéger l'un et l'autre.
Alors, on voyait Timothée Dufour, pardon, c'est Anthony qui est à côté de moi, sur les cortèges de tracteurs, on voyait des pancartes « Aimez-nous ». Or, on l'a bien vu, le soutien des Français est quasiment inconditionnel. Elle nous a appris quoi, cette crise agricole, en fait?
Elle nous a appris qu'il y a une solidarité exceptionnelle. Vous savez, j'étais sur la 16 le week-end dernier avec les agriculteurs de l'Oise. Et qui est-ce que j'ai vu? Je n'ai pas vu que des agriculteurs. J'ai vu des personnes lambda, des citoyens comme moi,
applaudir, filmer,
venir,
photographier,
se joindre à eux. J'ai vu des commerçants qui étaient sur le pont juste au-dessus, qui faisaient descendre dans les paniers, de quoi tenir autant que possible. Et vous savez, j'ai envie de vous dire, j'ai vu l'âme de la France de Max Callo. C'est-à-dire cette France qui a toujours été finalement une France de paysans, de France de ces travailleurs de la terre, ces amoureux de la terre. Et je crois que, d'une certaine manière, la France est réconciliée avec ses agriculteurs parce qu'on a donné l'impression que l'agribashing, que l'écologie radicale était majoritaire et en réalité, elle n'est qu'une minorité parce que nous aimons profondément nos agriculteurs et c'est peut-être la plus belle leçon de cette crise.
Et peut-être irons-nous les voir au Salon de l'agriculture. On sait qu'il y a eu des promesses, maintenant ils attendent des actes et que tout cela peut repartir. En tout cas, merci beaucoup Timothée Dufour d'être intervenu sur Europe 1 ce matin. On vous remercie de votre présence.
Merci à vous.